Bon, on a vu qu'à Ottawa, surtout, là, les politiciens ont été extrêmement prudents d'éviter de se prononcer sur, disons, la course à la présidence. Tant que tu n'as pas de gagnant, tant que tu ne sais pas qui sera ton vis-à-vis, M. Trudeau a été prudent, M. O'Toole également.
M. Legault également.
Oui.
C'est très bien, parce que c'est pas encore confirmé.
Ben c'est ça, là, tu sais.
Mais c'est pas mal fait, là. Parce que là, Nevada, Arizona, là, là, les chances sont très bonnes, mettons, actuellement, là, que Biden soit le nouveau président. Les chances sont très bonnes. Puis, on va commencer à s'imaginer un petit peu, Paul, à quoi ça pourrait ressembler, une présidence de Joe Biden par rapport à nous. Là. Qu'est-ce que ça changerait par rapport à nous? D'abord, ça va faire du bien à notre santé mentale. De ne pas être obligé de se faire bombarder quotidiennement par les tweets du président américain. Honnêtement, on ne va pas s'ennuyer de la danse du bacon quotidienne de Trump sur Twitter, là. Honnêtement, là, il y avait pratiquement pas une journée où il faisait pas une nouvelle avec ses sorties intempestives sur Twitter, puis toujours cette espèce de
comment nous, dire,
d'attitude regarde, très hargneuse, là, sa face de bœuf.
Mais on regarde ça de l'extérieur, on n'est pas américain. Là. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on regarde ça parce que la politique américaine nous intéresse.
Ah, puis parce que ça avait un effet sur nous aussi, Paul.
Ben moi, qu'il soit bougon, pas tant. C'est surtout quand il imposait des tarifs ou encore quand il prenait des mesures contre le Canada. Là.
Oui, c'est ça. Puis mettons qu'il en a pris une, puis un autre. Puis souvent, il les prenait d'une manière qui était totalement imprévisible. Je veux dire, on voyait pas venir le coup. T'sais? Moi, je suis pas en train de dire que Biden, là, ça va être l'amour perpétuel, là. Pas pantoute, là. Je veux dire, les États ont d'abord des intérêts pour ce qui est des amitiés, puis tu sais, ça vient pas mal plus loin, là. Les bonnes relations entre les chefs d'État, ça aide, ça met de l'huile, ça lubrifie les engrenages quand arrive le temps de régler certaines questions. Et c'est clair que entre Biden et Trudeau, le courant va passer pas mal mieux qu'entre Trump et Trudeau. Bon, notamment parce que sur beaucoup d'enjeux, ils sont pareils. Ils pensent pareil. Mais je veux dire, tu sais, quand Biden va devoir choisir entre un travailleur américain et un travailleur canadien, inquiète-toi pas, il va choisir le sien. Tu sais, alors, puis d'ailleurs, je le souligne à grands traits, il a été élu avec une plateforme économique très nationaliste, très « buy American », là. C'est ça, son credo à Biden, c'est « Buy American ». Il va continuer sur la lancée de Trump de favoriser l'industrie américaine, de favoriser l'achat chez nous, américains. Quand va venir le temps de nous imposer des tarifs, parce que ça pourrait arriver sous Biden, mettons sur le bois d'œuvre, il va y mettre la forme, mais ça fera pas moins mal à nos industries que quand c'était Trump qui nous imposait le même tarif, là. Il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Faut pas penser que
non, mais Trump, là, on peut lui faire beaucoup de reproches là, sur les mises en scène, puis le côté... Puis là, je vais mettre de côté, je dirais, tout ce qui concerne les relations avec les minorités, puis son attitude face à des suprémacistes blancs. Là.
Il est en train de payer pour ça, soit dit en passant.
Je pense que
regardes,
oui,
hein, les centres-villes de Détroit, Atlanta, ouais, c'est ça qui va le faire perdre. Là.
Mais sur le plan économique, ouais, il a quand même redressé ce qui était perçu avec raison par beaucoup d'Américains comme une forme d'iniquité, là. C'est-à-dire que les accords de libre-échange ont été rendus ailleurs.
Oui. Une mollesse. Par rapport aux Chinois, notamment. Puis ça aussi, ça va continuer avec Biden.
Et pendant la campagne, ils pointaient Biden en disant t'as fait ça pendant 8 ans, t'as été 47 ans en politique.
Oui.
Si la Chine a pu se remplir les poches au détriment des Américains, c'est à cause de gens comme toi, là.
Et Biden a semblé, d'une certaine manière, répondre à cette critique en disant ben, si vous m'élisez, je vais favoriser l'industrie américaine. Là, tu sais, j'en reviens au discours sur le Buy America. Alors ça, c'est sûr que ça va avoir un impact. Tu vois, je lis à matin là, que les camions Lion, là, camions électriques, autobus électriques, là, pourraient construire leur usine de fabrication de batteries, parce que c'est des autobus, des camions électriques, tu as besoin de batteries. Bon, ben là, la direction de Lyon dit peut-être que l'usine, on va la construire aux États-Unis plutôt que la construire au Québec. Moi, je pense que ça fait partie de la négo, là. Ils font monter les enchères avec le gouvernement du Québec, puis probablement avec celui du Canada pour obtenir plus d'aide pour finalement s'installer chez nous. Ben, c'est sûr qu'il va y avoir de la pression sur nos entreprises pour dire, ben là, si vous voulez nous vendre, si vous voulez vendre sur le marché américain, vous allez devoir, à un moment donné, ouvrir des usines chez nous. C'était déjà le cas. Trump a renforcé ça, puis je pense pas que Biden va lever le pied là-dessus. Ça, c'est mon observation. Mm-hmm. L'autre chose que je pense qui est importante de noter quand on regarde ce que ça pourrait changer pour nous, Biden, c'est au niveau de la lutte contre les changements climatiques. Au moins, lui, il croit. Il croit à ça. Il a dit que les États-Unis allaient réadhérer au traité de Paris. Ça, c'est une bonne nouvelle là, pour la planète, je dirais, là, puis pour tous ceux et celles qui souhaitent que les États-Unis jouent un rôle de leadership dans la lutte contre les changements climatiques. L'arrivée de Biden est une bonne chose. Et donc, ça va aider Trudeau, ça. Parce que le fait que ton principal partenaire commercial ait une vraie politique de transition énergétique, Trudeau qui rêve d'une relance verte, veut pas, ça va y dégager un espace politique, là. D'ailleurs, ça va être intéressant de voir comment Biden va gérer tout le dossier du pipeline Keystone XL, là. Parce qu'il a dit qu'il allait essayer d'arrêter ce pipeline-là. Ça, c'est l'espoir de l'Alberta, là. Keystone XL puis Trans Mountain, c'est les deux pipelines que l'Alberta espère pour sortir son pétrole. Si Biden met fin à ça, ça va avoir des répercussions au Canada, là, c'est sûr, là, puis ça pourrait compliquer la vie de
Trudeau. Non, mais il va en même temps continuer à favoriser, stimuler les opérations de gaz de schiste.
Oui, ça, il a dit qu'il a été obligé de préciser sa pensée après ses déclarations au débat, là. Il a dit qu'on s'en irait vers une transition, qu'il n'allait pas arrêter ça d'un coup. Il y aurait une transition vers les énergies vertes. Soit dit en passant, Paul, j'ouvre une petite parenthèse ici. Pour le Québec, ça, je pense que c'est une bonne idée. C'est un bon positionnement. Ça peut nous aider à vendre notre énergie verte que d'avoir un gouvernement, un président américain qui croit dans la lutte au GES. Et je veux juste te dire que le projet de vente de l'électricité au Massachusetts a franchi une autre étape hier. Parce que le corps des ingénieurs de l'armée américaine a émis son permis. Ça, c'est un permis dont on a besoin pour commencer la construction de la ligne qui passe à travers le Maine. Mm-hmm. Et donc, avec ce permis-là qui a été obtenu par Hydro-Québec puis par son partenaire, ben ça veut dire que les travaux pour construire la ligne vont commencer dans les prochaines semaines. Je referme cette parenthèse-là. C'est une nouvelle quand même qui est intéressante. Puis par rapport à la COVID, ça va faire changement, Paul, d'avoir un président qui porte le masque. Non, mais honnêtement, c'est important.
Pas juste le président, l'entourage aussi.
Tu sais, non, mais ce que je veux dire, tu comprends ce que je veux dire?
Ben oui.
D'avoir un président qui est sérieux dans sa lutte à la COVID, qui va sans doute donner une impulsion.
En tout cas, le docteur Fauci sera pas congédié.
Et voilà. Tu comprends? Puis on va avoir une stratégie sérieuse, constante pour lutter contre la COVID. On a intérêt, nous autres, à avoir un président américain qui est sérieux si on veut qu'éventuellement les États-Unis reprennent le contrôle sur le virus. Et qu'éventuellement, on réouvre les frontières. On n'est pas rendu là, Paul.
Non.
Mais 75% de nos exportations vont vers les États-Unis. Il ne faut jamais l'oublier. À un moment donné, il va falloir les rouvrir, les sacrées frontières, si on veut recommencer à vendre des produits.
Bon, parle-moi donc de la cimenterie mécaniste qui serait sur le point d'être vendue. Ça fait longtemps que c'est dans le décor. Là.
Ça fait longtemps que c'est dans le décor. Les journalistes de Québecor en avaient parlé le printemps passé. Moi, je t'en avais parlé au retour des vacances de l'été. Au mois d'août. Et là, c'est sur le point de se conclure. Là. Ils n'ont jamais été aussi proches d'une entente. Là. Moi, ce que je comprends, là, c'est que la transaction est pas mal ficelée, pas mal réglée.
On va perdre combien dans ça?
Bon, alors c'est ça. Préparez-vous, on va perdre beaucoup.
Mais ça, c'est pour ça que je te pose la question.
Beaucoup d'argent. Je vous rappelle, là, Investissement Québec a mis 350 millions là-dedans, prêts, puis Capital Action. On va perdre l'essentiel de cet argent-là. La Caisse a mis au moins 500 millions. Elle va en perdre une partie. Une bonne partie, pas sûr encore. Parce que là, ce que je comprends dans les discussions, c'est qu'il y aurait un mécanisme par lequel la Caisse pourrait récupérer une partie de ses billes sur des rendements futurs. Fait que ce que je comprends dans le deal qui est en train de se négocier, là, c'est que la Caisse resterait partenaire, peut-être même actionnaire à voir. Fait que si la cimenterie va bien, fait des profits, on récupérerait peut-être une partie de l'argent qu'on a mis là-dedans.
On va perdre un demi-milliard dans cette affaire-là.
Au moins.
Un demi-milliard.
On va perdre au moins 500, peut-être 600, peut-être 700. On va perdre beaucoup d'argent. Et ça commence. Et je ne sais pas si, Paul, il y a un lien entre ça et ce que je vais te dire dans un instant, là. Mais là, tu sais, quand le projet de la cimenterie mécaniste a été lancé, les cimenteries qui sont déjà installées au Québec ont dit, là, vous êtes en train de nous créer un concurrent, puis ça va avoir un impact sur nos affaires. Bien là, je t'annonce que au moment où on se parle, la direction de la cimenterie de Joliette, qui est la propriété du groupe CRH, d'un grand groupe industriel international, la direction est en train de rencontrer les syndiqués. Et moi, ce que j'entends, c'est que c'est des mauvaises nouvelles.
Okay.
Mise à pied. à la cimenterie de Joliette, puis c'est des beaux salaires, Paul. Quelqu'un qui travaille dans l'usine là, peut faire entre 80 et 100 000 piastres par année quand t'es à la production. Un journalier peut faire 50 000, 60 000 piastres par année. On parle de 150 à 200 emplois en incluant les cadres à la cimenterie. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on pourrait perdre peut-être la moitié des emplois à la cimenterie de Joliette. Et là, je suis certain, je te dis, je te le prédis, ils vont dire une des raisons pour lesquelles on fait ces mises à pied-là, c'est qu'on a de la concurrence de mécanismes. Mais des gens proches du dossier de mécanismes me disent « fais attention, parce que... »
Ben moi, je retiens les emplois perdus, puis je retiens les milliards, les centaines de millions perdus.
On aura perdu, ouais. Mais j'allais te dire, les gens proches du dossier me disent « fais attention pour ne pas te faire remplir avec ce dossier-là, parce qu'apparemment, on est obligé d'importer du ciment de l'étranger, on ne fournit pas avec les cimenteries québécoises. » Mais je vous laisse sur ce questionnement.
Okay. Merci. 7h12, la 13.